Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite. Bonjour Jacqueline Hirsch.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect peut-être moins connu d'Alexandra David-Nel. C'est Alexandra cantatrice. Alexandra qui est vraiment une amoureuse de la musique. Et je vais essayer de vous montrer que la musique était bien donc une passion pour Alexandra. Par exemple, elle écrit dans son carnet... Elle y raconte qu'un soir de septembre 1906, elle était dans un quartier de Londres à Ealing. Tandis qu'elle marche près d'une église, déjà, le carillon agit sur elle comme une irrésistible séduction. Mais elle décide de ne pas entrer puisqu'elle avait décidé définitivement qu'elle rompait avec le christianisme. Et puis pourtant, quand elle passe devant le porche de l'église, elle entend le son de l'orgue. Et donc elle écrit, je la cite, « Me voici le front courbé entre les bancs étroits, le cœur plein de prières. » Et on va voir que le théâtre aussi l'a passionnée. Alors avec beaucoup de difficultés pour avoir l'autorisation de ses parents, lorsqu'elle est encore mineure, Alexandra va passer 3 années d'études au conservatoire de Bruxelles, où elle obtient en 1889 le premier prix de chant théâtral français. Auparavant, elle s'était déjà, avant d'avoir son diplôme, elle s'était déjà produite en concert, principalement en Belgique, mais c'est surtout durant la saison d'hiver 1894-1895 qu'elle commence donc à 26 ans sa carrière artistique comme cantatrice d'opéra. Alexandra, qui rêve de liberté, d'indépendance financière, surtout parce que tout cela, évidemment, c'est pour gagner de l'argent et faire les études d'orientaliste dont elle a envie, elle obtient donc des engagements dans des théâtres en France, en Europe, en Indochine et même en Afrique du Nord. Et tout cela, on le sait parce que dans les archives de la maison, il y a les tracts, les programmes des opéras qu'elle a chantés. Par exemple, L'Acmé, Faust, Cléopâtre, Mireille, Carmen, etc. Et comme on le constate au dos d'une affichette, on dirait un flyer aujourd'hui, de Faust, elle a écrit au crayon les opéras différents qui sont joués dans la même semaine et par les mêmes artistes. Et je trouve ça extrêmement impressionnant, 4 voire 5 opéras différents dans la même semaine. Elle utilise un pseudonyme pour l'opéra, notamment Alexandra Myrial, et même celui de Mademoiselle de Saint-Mandé. Vous savez qu'elle est née à côté de Paris, à Saint-Mandé, et elle utilise même ce pseudonyme. Alors, elle explique ces pseudonymes qu'elle va utiliser aussi comme femme de lettres pour ne pas, elle ne souhaite pas déranger la réputation de son père. Comme d'ailleurs, elle le fera plus tard, comme pour ne pas déranger la réputation de son mari, Philippe. Alors, les articles de presse qu'on trouve toujours dans ces archives sont particulièrement élogieux. On apprécie la qualité de son chant et de son jeu théâtral. Alors, ces archives de la maison Alexandra David-Nel, qui ont été léguées à la ville de Digne par l'exploratrice, elles sont très précieuses pour la connaissance de cette partie de la vie d'Alexandra, c'est-à-dire presque une dizaine d'années, hein, où elle a, comme ça, chanté, alors pas tout le temps, hein, par intermittence, bien sûr. Et on trouve dans ces archives donc des photographies, mais aussi dans les collections, les costumes, les accessoires de la cantatrice. Il en est de même avec les correspondances, comme par exemple une correspondance assez soutenue avec Masmé, qui écrivait, qui avait un échange avec Alexandra, ou encore avec Mistral, auquel Alexandra s'adresse à propos du costume des Provençales pour pouvoir jouer Mireille à Arles. Elle a le souci du détail, comme elle a eu toujours dans sa vie. Alors, avec son compagnon de l'époque, le musicien Jean Auston, ils vivaient ensemble, sans être mariés. Elle était pour l'union libre, hein, on en a parlé les dernières fois. Ils composent ensemble un opéra, dont on n'a aujourd'hui aucune preuve qu'il ait été interprété. On pense d'ailleurs qu'il n'a jamais été interprété, mais dont le livret existe et a été conservé. Lydia, c'est un drame lyrique en un acte dont l'action se passe à Venise, au Moyen-Âge, après l'une des guerres de la République vénitienne. Alexandra a écrit les textes et Jean Auston la musique. Son compagnonnage avec Jean s'arrête pourtant en 1899, tandis que les contrats s'amenuisent. Après celui du théâtre d'Athènes, où elle se rend seule en 1899, celui de Tunis, au casino de Kéredine, dans la banlieue de Tunis, en 1900, là où elle va rencontrer Philippe, et enfin la représentation au Grand Théâtre de Gand, en Belgique, en 1901. Alexandra, qui a alors 33 ans, ne chantera plus d'opéra. La concurrence est rude. Et j'ai trouvé qu'en 1901, justement date à laquelle Alexandra n'a plus de contrat et ne chante plus, bien, selon le recensement, 60% des actrices ont moins de 30 ans.
Thank you.
Je vais vous parler maintenant, je vais laisser parler Alexandra d'ailleurs, du roman qu'elle a écrit, donc 1901-1902, hein, juste après ses expériences théâtrales d'opéra, qui s'appelle Le Grand Art et qui a comme sous-titre Le Journal d'une actrice. Donc vous lire des passages, alors je vous parlerai plus précisément du roman lui-même avec les personnages la semaine prochaine, mais là je vais vous lire des extraits concernant la musique. Ce n'est pas un roman complètement autobiographique, bien sûr, mais avec des parties qui sont vraiment autobiographiques. C'est-à-dire, on y rencontre quand même Alexandra, on y voit ses parents, on y rencontre ses parents, on y rencontre Jean Houston, le pianiste, etc. Donc, voilà quelques extraits sur la musique. À ma passion d'aventure se liait un amour extrême de la musique. Non pas qu'elle m'intéressât par elle-même, je n'entendais rien à la technique de la science musicale. Je jouais du piano sans virtuosité aucune. Mon impression d'essence purement sensitive provenait de l'enchaînement des accords dont l'harmonie me ravissait. En été, j'accompagnais parfois ma mère au Ranelagh, où certains soirs se donnait un concert symphonique. C'était mes jours de fête qui me faisaient croire en une vie toute spéciale, à côté de ma vie, éveillant en mon âme mille sentiments divers, joie ou peine, désir, regret confus, je ne savais. Là, dans la nuit tiède, s'épandaient tour à tour des phrases pompeuses ou mélancoliques. Les trompettes dominaient de leur voix claire le crescendo des instruments à cordes, me paraissaient sonner de triomphales apothéoses. Tandis que les allées sombres, s'enfonçant dans les ténèbres, entre les silhouettes majestueuses et indécises des grands arbres, s'illuminaient pour moi du rutilement des ors et de l'éclat des pourpres de quelques pompes antiques. Si c'était des troublantes mélodies s'envolant en murmures dans le calme du soir, des accords passaient tels des caresses, mille sentiments confus envahissaient mon âme de petite isolée. Des voix chuchotées sous les taillis d'énigmatiques et tentantes paroles, des baisers errés par l'espace, et, très chaste, très ignorante encore, je m'abandonnais tout à l'inconsciente volupté qui emplissait mon cœur d'un émoi délicieux. À travers la ramure épaisse, de ci, de là, un coin de ciel sombre apparaissait, encadré par la dentelle des feuilles. Des étoiles scintillaient, petites, infiniment lointaines et attirantes, évocatrices de rêves imprécis, au charme ensorcelant. Et je les regardais, extatiques, frissonnantes, songeant à quoi ? Puis l'orchestre reprenait, précipité, farouche, les phrases semblaient dire quelque chose de fantastique. Des chevauchées passaient en une course folle, et le tourbillon m'emportait, grisé jusqu'au vertige, par l'espace infini. Le concert terminé, je m'en revenais à côté de ma mère, silencieuse, toute tremblante. Devant moi, les buissons prenaient des formes étranges. Tout à coup, ils étaient le palais de mes rêves, les tentes ou les isbas, et toujours dans le ciel sombre, scintillaient très hautes, irritantes et douces, les petites étoiles qui semblaient me dire « Viens !» L'autre c'était l'autre que je préfère. Je continue donc avec le grand art, le roman d'Alexandra. Cette ivresse étrange, je l'éprouvais encore le dimanche à la grand-messe. L'orgue me ramenait à mes songeries et l'autel illuminé, transformé par ma fantaisie, devenait la scène où se mouvaient les héros de mon imagination. Moins que cela, un orgue de barbarie sous ma fenêtre me faisait oublier tout travail, mettait à néant les résolutions 100 fois prises de lutter contre mes folies pour devenir une marchande pratique et laborieuse comme ma mère. Brusquement, un soir, à la suite d'une représentation de Faust où j'avais vu Rose Caron, l'idée me vint de devenir actrice. Le théâtre. Je voyais là le moyen de réaliser mes rêves, de vivre en des heures de fièvre les poèmes dont je me berçais et que, déjà, je savais n'être pas du domaine de la vie réelle. L'art, pensais-je, me ferait une vie à côté de la vie, une existence aussi belle, aussi grande que l'autre est mesquine et basse. Dans la magie des accords, en phrases ardentes ou voluptueuses, passeraient en moi les sentiments des héroïnes, et mes nerfs, délicieusement, frémiraient de leurs angoisses ou de leurs joies. L'état divin me ferait oublier les hideurs coudoyés à chaque pas. Il serait le tabord rayonnant où se rassasirait ma soif de beau, d'héroïque, de grandiose, que rien ne pouvait apaiser. Par lui, j'irai, messagère d'idéal, portant de par le monde l'oubli passager des vulgarités quotidiennes. L'heure de rêve où les cœurs battent, où les âmes s'ouvrent en illusoires domaines où se contentent les aspirations secrètes, les élans réfrénés. Tout ce qu'il y a de beauté, de grandeur en l'esprit humain. Ce ne fut pas sans peine que j'obtins de mes parents la permission de me présenter en bon au conservatoire. En bons boutiquiers qu'ils étaient, ils avaient horreur des gens de théâtre et de tous les artistes en général. L'actrice représentait pour eux le modèle type de toutes les perversions. La femme abominable, celle que les mères redoutent pour leurs fils à l'égard d'un démon malfaisant. Cependant, comme j'étais loin d'être la travailleuse qu'ils auraient désiré enchaîner à leur comptoir, trimant sans relâche à leur profit, une irritation sourde d'abord, puis plus ouverte, se manifester à mon égard. Ne me voyant pas réaliser l'idéal qu'il s'était fait d'un enfant, il se désintéressait de moi comme d'un objet inutile, ne remplaçant pas le but qu'il lui avait assigné. Je leur devenais une étrangère, une charge supportée avec impatience. En me laissant entrer au conservatoire, dans ce milieu que leur pudibonderie réprouvait, ils m'abandonnaient, ils reniaient, me reniaient en eux-mêmes, espérant que bientôt je les débarrasserais complètement de ma personne. Fut-il pire que tant d'autres ? Oh, je ne le crois pas. Combien j'en ai entendu depuis de ces propos qui se tiennent auprès des berceaux ? Mon fils fera ceci, il embrassera telle carrière, aura telles idées. Je me souviens d'une veuve disant à ses amis : mon fils sera prêtre. J'ai des petites rentes, j'irai vivre avec lui, je serai respectée et choyée dans la paroisse, on m'invitera, j'aurai ma place à tous les dîners donnés par les notables du village. Pendant ce temps, le fils, un bambin de 4 ans, jouait à la balle sans se douter, le pauvre innocent, que sa vie était ainsi tracée de longue date dans l'esprit de sa bonne mère, rêvant d'un presbytère aux revenus abondants pour y soigner ses rhumatismes et rassasier sa gourmandise sénile. Ces années de conservatoire ont été pour moi des années de trop de rêves, l'art magique, l'art divin. Je ne voyais que lui, passant, indifférente, au milieu des intrigues de mes camarades, s'adonnant déjà presque toutes à la galanterie. Je dévorais les partitions, m'y passionnant comme à des romans vivants dont j'entendais parler les héros en phrases harmonieuses. 3 ans s'écoulèrent ainsi. J'obtins mon premier prix avec un succès assez marqué pour que ma mère, toujours prompte à s'incliner devant la réussite, d'où qu'elle provienne et quelle qu'elle soit, crût devoir m'aborder au sortir de la salle de concours avec cette déclaration bizarre, pêchée je ne sais où. « Aujourd'hui, je te salue, grand artiste !» Et puis, Elle m'emmena ensuite dîner à 3,50 francs dans un restaurant des boulevards pour clôturer dignement cette mémorable journée qui donnait une prêtresse de plus au grand art.
Возле печки ночь.